sachez que Claudia est la, notre professeur invité, dans le CSPRP et qu'elle enseigne la théorie politique à Buenos Aires et qu'elle a beaucoup travaillé sur Léo Strauss, sur Hannah Arendt, sur des questions relatives à la justice en Argentine aussi. Qu'elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, comme lequel par exemple?
Un livre sur Léo Strauss qui s'appelle Léo Strauss, l'art de lire. Oui. Bon, si, je vais raconter parce que c'est assez éclectique.
Très bien, donc nous allons l'écouter. Le titre qu'elle nous a donné, c'est Trois regards sur la fondation politique, Léo Strauss, Hannah Arendt, Claude Lefort.
C'est ça.
À toi.
Bon. Merci tout d'abord à Martine Lebovici, à Étienne Tassin et aux gens du CSPRP pour m'avoir invité. Alors, pour commencer, je voudrais situer quelque peu cette intervention justement dans la croisée de mes intérêts. Alors, tout de suite, je dois avouer, comme quelques-uns des ici présents le savent et d'autres peut-être le soupçonnent, que l'alignement de mes travaux et de mes intérêts offre une image quelque peu éclectique. Comme le disait Martine, quelques textes sur ou autour de Arendt, un livre, des articles sur Léo Strauss, un petit bouquin sur Hobbes en collaboration avec Mathias Sirceau qui est ici présent, un autre sur les difficultés de la gauche latino-américaine pour régler ses comptes avec la révolution cubaine, un certain nombre de textes sur la violence politique des années 70 en Argentine. Vous voyez, c'est assez varié et peu systématique. Et tout ceci croisé en permanence par des références théoriques répétitives, notamment à Arendt et aussi et surtout à Claude Lefort. Et je suis en effet en ce moment, comme Martine le disait aussi un peu, lancé dans le sujet du pardon et de la réconciliation. Quelques-uns ont été ici présents au séminaire dont j'ai parlé hier, en essayant de voir ce que la contrastation des expériences de la Commission de vérité et réconciliation en Afrique du Sud et de l'expérience des jugements militaires en Argentine peut donner à voir en ce qui concerne la façon dont ces sociétés règlent leurs comptes avec leur passé traumatisant. Alors, quand donc mes collègues m'ont proposé de venir parler ici devant vous en me donnant comme sujet ce dont j'aurais envie, je me suis plutôt trouvée devant un problème parce que, tout d'abord, en ce qui concerne ce que je pourrais en ce moment avoir à dire sur pardon et réconciliation, eux, ils le connaissent déjà. Et en plus, comme je vous disais, j'en ai parlé hier dans le séminaire de Julie Saada et Raphaël Noël-Goldberg. Alors, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant, et j'espère que ça le sera pour vous, de vous proposer une sorte d'exercice de style où j'enfilerai, comme on enfile un collier, disons, trois auteurs dont je m'entoure plus ou moins en permanence, en essayant de mettre côte à côte ce qu'ils ont à nous dire sur un des problèmes qui, en ce qui me concerne, hante à peu près tout ce que j'écris ou ce que j'essaye de penser, et qui est le problème du fondement de la légitimité de l'ordre politique dans la modernité, ou pour le dire autrement, la question du politiquement juste et injuste, ou aussi, si vous voulez, la question de l'énigme du commencement en politique. Il va bien entendu de soi que je ne réclame aucune originalité en ce qui concerne l'identification de ce problème, un problème qui est au moins, comme vous le savez, depuis Rousseau, le problème ou un des problèmes clés de la pensée politique moderne, et que Rousseau même définissait comme la quadrature du cercle en politique, c'est-à-dire la réponse à la question comment placer la loi au-dessus des hommes. Alors, je vous propose donc, sans aucune prétention d'originalité, de procéder à cet exercice de style qui va consister à parcourir quelques questions qui suscitent pour la pensée moderne l'énigme du commencement en politique et de le faire de la main de Hannah Arendt, de Léo Strauss et de Claude Lefort, dans cet ordre, afin d'essayer de déceler chez chacun d'eux la façon dont ils prennent en charge cette énigme, en essayant de voir ce que cette façon de le prendre en charge peut nous dire sur leur compréhension du politique en tant que tel. Et notamment en essayant, ce faisant, de réfléchir sur ce que j'appellerais le soi-disant privilège dont nous bénéficierions éventuellement, nous, hommes et femmes des temps démocratiques ou des temps modernes, quand il s'agit de réfléchir à l'essence du politique. Alors je commence maintenant, vraiment, je m'excuse d'avance parce que je sais que ça va prendre plus longtemps que ça ne le devrait, mais comme c'est très auteur, je ne suis pas arrivée à faire ça plus court. Alors vous avez le droit de vous endormir entre-temps si vous ne ronflez pas et vous faites semblant de continuer à entendre ce que je vous raconte. Alors, commençons cet exercice donc en fixant notre attention sur le regard que porte Arendt sur la question de la légitimité ou de la légitimation de l'ordre politique dans la modernité. Il est sans doute possible de parcourir presque toute l'œuvre de Arendt, au moins depuis les origines du totalitarisme, suivant le fil de cette inquiétude, comme il serait bien entendu aussi possible de la parcourir suivant d'autres fils. Alors, pour suivre ce fil-là, permettez-moi de commencer avec une citation extraite du colloque sur son œuvre qui s'est tenu dans sa présence, avec la présence de Arendt, à Toronto en 1972. Arendt dit ceci, et c'est moi qui traduis, « Je suis tout à fait convaincu que la catastrophe totalitaire ne serait pas arrivée si les gens avaient continué à croire en Dieu, ou encore mieux, à l'enfer, c'est-à-dire s'il y avait encore d'absolu. Il n'y a pas d'absolu. » Fin de citation. La perte des absolus est donc la brèche par laquelle ou dans laquelle se glisse le mal majeur de notre siècle. Cette affirmation que je viens de vous lire reprend, si vous voulez, d'une façon colloquiale, ce que Arendt écrivait dans « Qu'est-ce que l'autorité ?» et je cite encore. « La conséquence la plus importante de la sécularisation de l'époque moderne est peut-être bien l'élimination de la vie publique avec la religion, du seul élément politique de la religion traditionnelle, la peur de l'enfer. » Cependant, je crois que nous aurions tort d'extraire hâtivement de ces deux premières citations que je viens de vous lire la conclusion que, pour Arendt, la perte des absolus qui caractérise la modernité politique ne porte comme unique promesse ce destin funeste. Tel pourrait par contre être, et j'en reviendrai, la synthèse du regard straussien de Léo Strauss sur le phénomène. La perte des absolus, caractéristique de la sécularisation de l'âge moderne, n'est pas seulement aux yeux de Arendt porteuse de l'avènement des pires démons, elle peut aussi être l'occasion d'une redécouverte de l'essence même du politique. En effet, la perte de l'absolu peut nous permettre éventuellement de récupérer ou de redécouvrir l'expérience de la fondation, c'est-à-dire de redécouvrir l'origine proprement politique de l'ordre politique, d'une expérience, l'expérience de la fondation, qui était restée ensevelie sous le poids de la tradition gréco-chrétienne, c'est-à-dire de cette tradition qui faisait reposer la légitimité de l'ordre dans un foyer supra- ou extra-mondain. De cette expérience de la fondation, alors, la modernité peut donc aussi être porteuse. Il existe dans notre histoire politique, signale en effet Arendt, toujours dans « Between Past and Future », entre passé et futur, un type d'événement pour lequel la notion de fondation est fondamentale. Et cet événement est la révolution moderne. Ou encore, si vous voulez, dans les mots de l'essai sur la révolution, « Les révolutions sont les seuls événements qui nous placent directement, inéluctablement, devant le problème du commencement. » Autrement dit, le problème du commencement, le problème de l'origine en politique, de la légitimité de la fondation, devient manifeste pour nous de façon inéluctable, inéluctablement dit-elle, face à l'événement de la révolution. Et cette révolution ou ces révolutions s'en sert précisément pour Arendt dans cette brèche qui s'ouvre avec la perte de l'absolu dans la modernité. Alors, tel que l'élit Arendt, les révolutions modernes redécouvrent alors l'expérience de la fondation politique, l'expérience romaine de la fondation politique, qui place dans la fondation elle-même l'origine de la légitimité, la fondation de l'autorité. Autrement dit, les révolutions modernes redécouvrent ou nous font redécouvrir que la fondation de l'ordre ne peut trouver sa légitimité en dehors de la capacité humaine de donner commencement, ne peuvent trouver sa légitimité que en dehors, ne peuvent trouver sa légitimité que dans la capacité de commencer elle-même. Alors, même si, d'après Arendt, les Romains ont pu chercher à exprimer cette expérience dans les termes de la pensée grecque, et même si les révolutionnaires modernes ont eux aussi cherché à l'exprimer dans des termes classiques, dans un cas comme dans l'autre, ce sera la fondation elle-même qui sera portée à devenir, pour ainsi dire, son propre absolu. Dans cette redécouverte de l'expérience de la fondation, les révolutionnaires modernes font alors ressurgir le caractère proprement politique de l'origine, du commencement, et nous donnent à voir avec une clarté éblouissante cette vérité qui nous dit que l'essence du politique repose sur la capacité des hommes à être des créateurs, des commenceurs, si on peut dire cela, sur la capacité à être eux-mêmes, si vous voulez, en tant que nouveau commencement, à l'origine du nouveau commencement en politique. Pour illustrer cette affirmation, permettez-moi encore une phrase d'Arendt dans « Essai sur la Révolution », je cite « Il est futile de chercher un absolu pour briser le cercle vicieux dans lequel tout commencement est pris, étant donné que cet absolu réside dans l'acte même du dit commencement. » Autrement dit, ce que Arendt nous dit, c'est qu'il n'y a pas d'absolu en politique en dehors de la politique elle-même. Ce n'est donc pas qu'il n'y en a plus, c'est que dans l'abîme de la perte d'absolu, dont la tradition, aujourd'hui brisée, était lestée, paraît devant nos yeux la possibilité de comprendre à nouveau que la fondation, que l'introduction d'un nouveau commencement, ne peut en dernière instance trouver son fondement que dans la capacité des hommes à donner eux-mêmes commencement à du nouveau. Dans l'expérience moderne du politique qui s'ouvre dans la brèche laissée par cette perte des absolus, nous assistons ainsi à la possibilité de récupérer une compréhension proprement politique du politique. Mais si ceci se passe comme ça, qu'est-ce que, aux yeux de Arendt, pourrait soit faire pencher la modernité vers son destin le plus obscur, soit par contre l'approcher de sa possibilité la plus proprement politique? Autrement dit, qu'est-ce que, dans l'expérience moderne de la perte de l'absolu, ferait signe vers la fondation de la liberté, et qu'est-ce que, dans cette perte de l'absolu, paraîtrait par contre annoncer la possibilité d'une dérive totalitaire? Je disais il y a un instant que la perte d'un absolu nous place devant la possibilité accrue de pouvoir accéder à l'expérience politique en tant que proprement politique, comme expérience pure, pour ainsi dire, de la fondation de la liberté dans l'expérience de la révolution. Je vais revenir sur ceci dans un instant. De l'autre côté, disais-je aussi, la dérive totalitaire peut s'insérer dans cette brèche laissée béante par la rupture du fil de la tradition. Je crois qu'il est possible de déceler dans l'œuvre de Arendt, de façon quelque peu différente, sous lesquelles cette dernière possibilité, la possibilité de la dérive totalitaire, paraît s'annoncer. D'une part, la perte d'un étalon de mesure transcendante du bien et du mal, de l'interdit et du permis, de cet étalon que, selon la citation que je faisais tout à l'heure, s'affirme dans la crainte du châtiment divin, cette perte nous placerait d'emblée devant la menace de cette dérive, la perte de cette crainte de l'enfer, du châtiment divin, pourrait lever les digues qui contiennent une moralité assujettie précisément par la peur de l'enfer, pour attacher cette moralité aux amarres plus fragiles, si vous voulez, de l'auto-institution humaine, trop humaine pourrait-on dire, du juste, donnant éventuellement cours à la possibilité de l'adoption de n'importe quel ensemble de règles, même criminelles, venant se substituer aux normes traditionnelles. Arendt s'occupe de cette première possibilité dans des textes comme « Les origines du totalitarisme » d'Eichmann à Jérusalem, ou dans des écrits et conférences comme « Thinking and Moral Considerations » ou « Some Questions Concerning Moral Philosophy ». Et c'est à ceci qu'elle pense, je crois, dans la phrase que je rappelais au début, la catastrophe totalitaire ne serait pas advenue s'il y avait encore des absolus. Quant à la deuxième possibilité, je disais, il y a deux possibilités, je pense, pour lire cette dérive totalitaire chez Arendt. Quant à la deuxième possibilité, je crois qu'on peut penser que les révolutions elles-mêmes pourraient, pour Arendt, les expériences de fondation de la liberté, donc, pourraient, même conscientes du danger auquel elles s'affrontent, échouer dans leur effort de fondation de la liberté et d'échouer donc dans des nouvelles formes de domination despotique. Dans ce cas de figure, ce ne serait pas la modernité en tant que telle, mais plutôt les révolutions de l'ère moderne qui pourraient, dans leur échec, favoriser le surgissement des pires périls. Cette possibilité plane sur la réflexion arendtienne sur la révolution, telle que nous la retrouvons, à mon avis, dans les derniers paragraphes de « Sur l'autorité », ainsi que dans l'essai sur la révolution. Et c'est sur cette dernière possibilité, sur les révolutions elles-mêmes comme clé de voûte de la possibilité de l'expérience de la liberté, mais aussi de leur échec et leur dérive éventuelle vers le péril totalitaire, que je voudrais me pencher maintenant brièvement. Alors, pour ce faire, je partirai tout d'abord des derniers paragraphes de « Qu'est-ce que l'autorité ?» Arendt nous y avertit que, bien que les révolutions pourraient apparaître non pas comme des simples ruptures de la tradition, mais plutôt au contraire comme des expériences de récupération de la tradition romaine de fondation politique, en même temps, la dérive des révolutions, que ce soit vers des formes de restauration conservatrice ou vers l'avènement de régimes tyranniques, cette dérive donc nous fait comprendre que cette récupération de la tradition romaine a échoué. La récupération de la tradition romaine, ou, si vous voulez, pour être plus précis, la répétition de l'expérience romaine de la fondation, n'a pas pu être menée à bien par les révolutions modernes, parce que la tradition de l'autorité, la préservation du commencement sous la forme devenue tradition de l'autorité, c'est quelque part égaré sur le chemin. Autrement dit, qu'est-ce que l'autorité suggère que si l'expérience de la fondation romaine a elle été réussie, cela a tenu à sa capacité de préserver la fondation dans une tradition de l'autorité, c'est-à-dire de préserver l'éclat, la splendeur de l'événement proprement politique de la fondation politique, dans une tradition qui préservait, qui conservait, transmettait, et notamment qui octroyait de la stabilité à la dignité de l'ordre ainsi constitué. L'aménagement d'une tradition qui assoit dans la fondation elle-même et dans sa préservation le principe inspirateur et durable de la communauté politique, la pourvoit d'une stabilité qui est une stabilité certainement précaire. Mais toute précaire qu'elle puisse être, il s'agit d'une stabilité assise sur un principe proprement politique, la préservation de l'événement de la fondation, et non pas sur un principe transcendant ou un principe absolu. C'est donc là la clé de l'expérience romaine de l'autorité. Alors, regardez dans ce miroir de la fondation romaine, que se passe-t-il aux yeux de Arendt avec les révolutions modernes? Même si, d'après Arendt, et je cite, « les révolutions semblent être le seul salut que cette tradition romano-occidentale est fournie pour les circonstances critiques. Même ainsi, les révolutions se seraient néanmoins révélées incapables de se stabiliser en tant que régime libre et auraient dérivé vers des restaurations ou des despotismes. Les révolutions modernes n'auraient pas su ou n'auraient pas pu rétablir la tradition romaine de l'autorité, de cette autorité qui, dans les termes, dans les mots de Arendt, naquit de l'expérience romaine de la fondation et qui fut interprétée à la lumière de la philosophie politique grecque. Ou, si vous voulez, pour être plus précis encore, les révolutions modernes n'ont pas réussi à rétablir une notion de l'autorité qui, sans aspirer à la transcendance de l'absolu, pourrait tout de même protéger la continuité de la communauté politique appuyée sur, je cite, « le savoir, awareness », le terme en anglais, « le savoir que la source de l'autorité transcende le pouvoir et ceux qui sont au pouvoir ». Cette dernière citation, « le savoir que la source de l'autorité transcende le pouvoir et ceux qui sont au pouvoir », nous renvoie tout droit à une distinction que je trouve essentielle chez Arendt. Il s'agit, vous l'aurez compris, de la distinction entre la source de l'autorité et l'assise du pouvoir. Je répète, tout en refusant de faire remonter l'autorité à un absolu, Arendt nous parle ici de la conscience, la awareness, que la source de l'autorité transcend le pouvoir de ceux qui sont au pouvoir. Pas donc de transcendance de l'absolu, mais quand même une distance entre la source de l'autorité et le pouvoir de ceux qui sont au pouvoir. Alors, dans cette distinction, dans la distance délicate qui sépare l'affirmation d'une instance transcendante, absolue, de l'autorité d'un côté, ou de la remise inconditionnelle à l'immanence du pouvoir de l'autre, se joue chez Arendt la possibilité de l'institution politique de la liberté. Et je reviendrai sur cette distance entre autorité et pouvoir, entre transcendance de l'autorité et immanence du pouvoir, quand je parlerai de l'effort tout à l'heure. Alors, dans ce se tenir à distance, aussi bien de la transcendance de l'autorité dans un absolu que de l'immanence du pouvoir, nous trouvons aussi, je crois, en même temps, la clé de ce qui sépare une révolution réussie de son échec. D'un échec qui peut se montrer aussi bien dans l'impossibilité de rétablir une tradition de l'autorité que dans l'impossibilité de trouver une forme de perpétuation dans le temps de l'expérience du pouvoir, ou enfin dans l'impossibilité de maintenir la distance entre l'une et l'autre, c'est-à-dire dans l'impossibilité de maintenir la distance entre source de l'autorité et source ou assise du pouvoir. En effet, cette distinction entre pouvoir et autorité, sur laquelle conclut le texte sur l'autorité, jouera, je pense, un rôle capital dans le diagnostic arendtien de la destinée des révolutions américaines et françaises, telle que Arendt nous les présente dans l'essai sur la Révolution. Je n'aurai pas le temps de m'y arrêter longuement, sauf si vous me donniez encore 3 heures de plus de parole, mais permettez-moi de dire, dans une synthèse quelque peu brutale, que si aux yeux de Arendt, la Révolution américaine réussit au début, là où la Révolution française échoue, cela tient à ce que, sans le savoir ou presque sans le vouloir, mélange, si vous voulez, de Fortuna et de Virtu, la révolution américaine aura presque naturellement placé l'assise du pouvoir dans sa seule source véritable, c'est-à-dire dans l'action plurielle commune des hommes stabilisée par la promesse, et qu'elle aura placé la source de l'autorité dans l'acte même de fondation, dans l'éclat de l'acte fondateur des Founding Fathers, des pères fondateurs, et dans l'institutionnalisation de cette fondation, dans le processus de création de la Constitution, et puis dans la Constitution elle-même. Et qu'elle aura enfin donné continuité à la fondation qu'elle aura confié la protection et l'augmentation de cette fondation à une institution précise, la Cour constitutionnelle, répétant à sa façon l'expérience romaine qui confiait au Sénat la conservation de l'autorité de la fondation et plaçait en même temps la source du pouvoir dans le peuple. Alors, Arendt paraît retrouver dans la Révolution américaine la possibilité d'une répétition de l'expérience proprement politique de la Fondation de la Liberté, qui se ferait son chemin dans la brèche ouverte par la perte d'un absolu, d'une autorité qui s'autorise dans l'expérience même de la Fondation, et où ailleurs, si ce n'est dans la capacité humaine de commencer, pourrait-elle, pour Arendt, s'autoriser, et qui retrouve dans l'action en commun des hommes la source du pouvoir, et encore une fois, et d'où, si ce n'est de l'action des hommes, le pouvoir surgirait-il. Mais, si cela est le cas, pourquoi nous dit Arendt que la révolution américaine finit elle aussi dans un échec? Je vais encore répondre dans à peine une phrase. Si, à la lecture de « Qu'est-ce que l'autorité ?», il semblait que nous devions chercher les raisons de cet échec dans l'incapacité des révolutions modernes à revivifier la tradition romaine de l'autorité, si nous nous tenons maintenant à l'essai sur la révolution, écrit quelques années plus tard, l'échec paraît plutôt devoir être attribué maintenant non pas à l'impossibilité de maintenir vivante une tradition de l'autorité, cela semble au contraire être une réussite de la révolution américaine, mais plutôt à l'incapacité de celle-ci, de la révolution américaine, à soutenir dans le temps l'expérience du pouvoir, c'est-à-dire à se donner des institutions capables de générer et de régénérer durablement des espaces publics dans lesquels le pouvoir peut se manifester. À la lumière de la révolution américaine, de son succès premier et de son glissement vers ce qu'aux yeux d'Arendt apparaîtra comme une restauration conservatrice, la révolution française semble, quant à elle, préfigurer la matrice de la dérive despotique des fondations de l'époque moderne qui s'inscrivent dans la trace de l'absence d'un absolu. Encore une fois, si nous nous tenons au dernier paragraphe de « Qu'est-ce que l'autorité ?», nous percevons qu'aux yeux de Arendt, ce sera la conception platonicienne plutôt que la romaine qui marquera de son sceau l'acte de fondation moderne, et j'ajouterai, et en particulier, de la Révolution française. La fin recherchée, la construction d'une république, justifie les moyens, même violents, mis au service de cette construction. Certes, pour Robespierre, comme elle l'était pour les Romains, la fondation est censée être l'acte politique fondamental. Mais si les Romains, nous dit Arendt, tournent leur regard vers l'arrière, vers un acte enfoui dans le passé, Robespierre fait, lui, de cet acte une fin et de ce qui le complète, un moyen nécessaire. Dans des termes arendtiens, nous pourrions dire qu'il introduit la violence de la fabrication dans le terrain de la praxis. Et si, comme nous le disions à l'instant, nous pouvions identifier l'échec posthume de la Révolution américaine dans son incapacité à soutenir durablement l'expérience du pouvoir, nous pourrions toujours, à l'aide de Arendt, lire l'autre versant de l'échec des révolutions, sa dérive despotique, comme il suit. Je propose: la compréhension instrumentale de la fondation, la conception plus grecque que romaine de la politique, finit par corrompre ce que la fondation elle-même comporte d'actes proprement politiques. L'amalgame du pouvoir ou de l'exercice du pouvoir et de la source de l'autorité semblerait nous placer devant des expériences qui, assises sur le prestige de la fondation, condensent l'exercice du pouvoir dans les mains du groupe révolutionnaire, des pères fondateurs, et dépossède le pouvoir de sa seule source véritable. Et je pense que de nos jours, la révolution cubaine pourrait être l'objet d'une telle lecture. Où nous pourrions aussi nous trouver en présence de révolutions qui, dans l'impossibilité de trouver un ancrage solide et durable pour l'autorité qui serait distincte de la source du pouvoir et qui pourrait ainsi marquer les limites de l'exercice légitime du pouvoir, finirait par noyer l'expérience révolutionnaire dans le vertige de l'action sans frein d'un pouvoir constituant, d'un pouvoir qui s'identifie à la loi même de la révolution, vertige auquel seul mettrait fin l'appropriation de l'exercice du pouvoir par un despote suffisamment puissant, capable de donner de la stabilité à la loi, dans l'expression de sa volonté unique et unifiée. Mais quoi qu'il en soit, même devant ces deux dérives, de ces dangers et de ces difficultés, nous l'avons dit, l'âge moderne préserve néanmoins pour Arendt, dans la possibilité de la fondation, l'ouverture potentielle pour l'expérience de la liberté politique. Ce qui, dans les mots de Arendt, était connu depuis toujours, c'est-à-dire le fait que le seul absolu en politique, je cite, réside dans l'acte même du dit commencement, assis sur la capacité paradoxale des hommes à commencer, puisqu'ils sont eux-mêmes des commencements, cela, nous dit Arendt, n'est peut-être devenu manifeste et susceptible d'être exprimé conceptuellement que dans l'ère des révolutions. Il se pourrait même, signale-t-elle dans Between Past and Future, je cite, qu'aujourd'hui seulement le passé s'ouvrit à nous avec une fraîcheur inattendue et nous dit des choses pour lesquelles personne encore n'a eu des oreilles. La brèche entre passé et futur, qui acquiert pour la première fois dans les mots de Arendt de l'importance politique, nous met donc à la fois face à face avec le danger des pires calamités, mais aussi avec une possibilité renouvelée de fondation de la liberté, d'une expérience proprement politique du politique. Comme nous aurons à le voir tout de suite, partant d'un regard sur la nature de la rupture moderne qui ne s'éloignait pas forcément beaucoup de celui de Arendt, le bilan que fera Léo Strauss des conséquences de cette rupture sera beaucoup moins ambigu ou nuancé. Alors, si dans les mots de Arendt, la perte des absolus, de la peur de l'enfer, nous mettait face à face avec le danger de la catastrophe totalitaire, elle nous situait donc aussi devant l'expérience du commencement politique d'une façon peut-être inconnue auparavant. Si pour Arendt alors, nous nous trouvions dès lors devant la possibilité renouvelée d'articuler dans le concept quelque chose qui d'une façon ou une autre était connu depuis toujours, pour Léo Strauss par contre, l'époque moderne a pour caractéristique marquante l'irresponsabilité avec laquelle elle fait face dans la pensée à ce que pour Strauss aussi était connu depuis toujours et que les époques précédentes considéraient prudent de maintenir caché, réservé exclusivement pour la connaissance du petit nombre. Ainsi, si Arendt salue chez Machiavel le grand penseur de la fondation politique, Strauss, qui reconnaît pour sa part en Machiavel le penseur qui inaugure et qui symbolise le mieux la rupture moderne avec la pensée classique, dira quant à lui que, et je cite, « il n'y a pas dans toute l'œuvre de Machiavel une seule observation vraie concernant la nature de l'homme ou les affaires humaines qui n'ait pas été connue parfaitement par les classiques. » La différence essentielle entre la pensée classique et la pensée postmoderne, post-machiavélienne, se manifeste dans le fait que Machiavel dit tout haut et en première personne ce que, je cite encore, les penseurs anciens montraient de façon dissimulée ou en faisant des gestes évidents de répugnance. Une différence qui, selon Strauss, n'est pas des moindres. Dans ce passage de la réserve des classiques à la déclamation ouverte des modernes, se donne à voir une rupture fondamentale en ce qui concerne la façon dont les uns et les autres comprennent les conditions de la vie en commun. Autrement dit, la rupture moderne est marquée aux yeux de Strauss par le sens que nous devons attribuer au fait que les modernes ne croient plus nécessaire de taire ce que les classiques, eux, taisaient. Alors, qu'est-ce que Machiavel dit tout haut que les classiques savaient déjà, mais qu'ils croyaient nécessaire de cacher aux yeux du plus grand nombre ? Encore une fois, je vous demande pardon pour la synthèse brutale que je vous propose d'un argument qui parcourt comme un fil doré toute l'œuvre de Léo Strauss. Machiavel dit tout haut que la meilleure cité est par nature impossible, que la moralité de la cité ne possède pas de fondement transcendant, de fondement qui puisse transcender son caractère politique, qui puisse transcender sa fondation elle-même, une fondation souvent violente, qui plus est. Mais cela est pour Strauss déjà connu par les classiques. L'impossibilité de la cité juste et de la fondation supramorale de la moralité constitue, aux yeux de Strauss, le noyau même de la philosophie politique platonicienne. Pour le Platon de Strauss, la cité juste est impossible et le discours sur la cité juste, notamment le discours de la République, est, tel comme la lit Strauss, la démonstration à la fois de cette impossibilité et de la nécessité de cacher cette impossibilité. Cette impossibilité de la cité juste se lit chez Strauss de diverses façons, dont deux vont m'intéresser ici. Tout d'abord, la cité juste, en conformité avec la nature, est impossible parce que son existence suppose le gouvernement des philosophes par la volonté du peuple. Et il est impossible que les philosophes gouvernent, aussi bien parce que le peuple ne peut accéder sans coercition à la sagesse qui ferait qu'il confierait de façon libre le gouvernement aux philosophes, mais c'est impossible aussi parce que les philosophes ne désirent pas gouverner et devraient donc être obligés à le faire. Alors, d'un côté ou de l'autre, nous serions en présence d'un gouvernement basé sur la contrainte. Ensuite, la cité conforme et au droit naturel est impossible parce que le droit de la cité n'est pas vraiment naturel, le droit de la cité est toujours politique. Le philosophe, n'étant pas en possession de la vérité ultime sur le tout, mais seulement à la recherche de cette vérité, la moralité de la cité ne peut pas être assise sur le caractère naturel de cette moralité, mais seulement sur des nobles mensonges soutenus par les philosophes concernant le caractère susceptible de démonstration du droit naturel. Autrement dit, si la philosophie politique, comprise en tant que traitement politique de la philosophie, est nécessaire, cela tient à ce qu'au cours de sa recherche, le philosophe accède à la connaissance de l'impossibilité de la cité parfaite et prend conscience du fait qu'il ne peut pas, et peut-être ne le pourra-t-il jamais, démontrer la supériorité des valeurs de la cité. La moralité de la cité, je le répète, n'est pas susceptible de démonstration philosophique, mais seulement d'affirmation politique. Permettez-moi d'ajouter à ceci, et seulement parce que j'en aurai besoin à la fin de mon exposé, que ce qui différencie la philosophie dans le sens que l'entend Strauss de la religion, et qu'en même temps qu'elles savent toutes les deux que la moralité de la cité n'est qu'une moralité politique et non pas une moralité absolue, elles sont en désaccord sur ce qui se trouve au-delà de la morale politique, sur ce qui lui donne sens, sur, si vous voulez, ce qui la complète. Pour la religion, au-dessus de la cité se trouve l'obéissance à la parole divine. Pour la philosophie, il se trouve la vie philosophique à la recherche d'une vérité toujours élusive. Mais tel que les comprend Strauss, les classiques comprennent eux-mêmes que ce savoir auquel a accès le philosophe, le savoir sur le caractère non susceptible de démonstration des valeurs de la cité, est, dans les mots de Strauss, de la dynamite pour la société civile. Pour être stable, une société a besoin de croire dans la supériorité des principes sur lesquels elle s'assied. Traduit dans un langage arendtien, nous pourrions peut-être dire ceci: même si l'existence d'absolu ne peut pas être objet de démonstration, même s'il n'y avait pas d'absolu, pour vivre et pour bien vivre, une société a besoin de croire dans le caractère absolu de ses principes. Aux yeux de Strauss, seulement quelques-uns, en raison de leur qualité particulière, peuvent accéder au savoir du caractère politique, sans vrai fondement philosophique, des valeurs de la cité. et peuvent faire de la recherche de ce fondement leur mode de vie. Revient donc à ces quelques privilégiés, aux philosophes en tant que philosophes politiques, la tâche de soutenir le noble mensonge sur le caractère absolu, démontrable, démontré, naturel des principes ou des valeurs de la cité. La rupture moderne se laisse ainsi voir, nous dit Strauss, dans la différence qui existe entre l'expression joyeuse et le silence responsable, entre la jouissance du politicien machiavélien et la prudence de l'homme d'État aristotélicien, devant faire face l'un et l'autre à la nature conventionnelle, politiquement instituée de la norme. Aucune expression légale ne peut rendre compte de la différence qui les sépare, nous dit Strauss dans « Droit naturel et histoire », mais il ajoute « Son importance politique est évidente. Aucune différence légale ne peut rendre compte de la différence qui les sépare, mais son importance politique est évidente. » Cette rupture moderne s'inscrit alors là où les penseurs politiques de la modernité, dans l'élan pionnier de Machiavel, ne croient plus qu'il soit nécessaire de préserver le secret concernant l'impossible démonstration de la moralité de la cité, l'impossibilité de démontrer philosophiquement le caractère absolu de ses valeurs ou de ses principes. Beaucoup de ces penseurs, si ce n'est tout, nous dit Strauss aussi, ignorent même que ce qu'ils croient avoir découvert était à la fois su et tu par les classiques, ce qui fait que, et je cite encore, une réduction extraordinaire de l'horizon sera prise par Machiavel et ses héritiers pour un élargissement extraordinaire de l'horizon. Aux yeux de Strauss, alors, si nous voulons comprendre cette transformation radicale dans la compréhension des affaires humaines, dans laquelle non seulement a été oubliée la nécessité de cacher une vérité dangereuse, mais dans laquelle en plus on se trompe en prenant le soi-disant idéalisme exotérique des classiques pour leur vérité la plus profonde, si nous voulons comprendre cette transformation, disais-je, il faut que nous fixions notre regard sur la nouvelle compréhension égalitariste, non hiérarchisante de la vie humaine, qui, dans le sillage de la nouvelle foi, dans le progrès et l'illustration universelle, paraît sur scène dès le début de la modernité. Il est en effet possible d'affirmer que si, selon Strauss, la modernité ne croit plus nécessaire de cacher le fait que nous ne pouvons pas démontrer le caractère absolu des valeurs ou principes qui fondent l'ordre commun, cela est dû au fait qu'elle est guidée par la conviction qu'il n'existe pas parmi les hommes des différences de hiérarchie qui posséderaient une signification politique. Les hommes, dit Strauss, ne sont plus définis par ce qui les différencie en ce qui concerne le plus élevé en eux, par le plus haut, mais ils sont définis par ce qui les égalise au plus bas dans leurs aspects les plus primaires et élémentaires. En conformité avec cette égalisation, la pensée moderne a rabaissé la finalité à laquelle elle veut accéder. Il ne s'agit plus d'imaginer l'ordre en conformité avec ce qu'il peut y avoir de plus haut dans l'homme, avec ce que l'homme devrait être, mais seulement avec ce que l'homme est. Ainsi, l'ordre meilleur pourra être atteint et ne sera plus un simple rêve. Ou encore, toujours dans les mots de Strauss, contrairement à ce que pensaient les classiques, le problème politique pourra trouver une solution définitive. L'ordre le meilleur sera celui qui répondra de la façon la plus efficace à ce que les hommes désirent à égalité, et non pas celui qui pourrait tendre à la réalisation de ce qu'il y a de plus élevé dans l'homme. Les hommes seront conduits à adhérer à cet ordre, entraînés par leur intérêt le plus primaire, sans besoin pour cela de nobles mensonges ou de guides moraux. Pour leur adhésion, tout ce qu'il faudra, c'est une dose d'intérêt propre éclairé, ce dont tous les hommes sont potentiellement capables à égalité. Dans d'autres termes, cet intérêt propre éclairé peut être atteint par tous, rationnellement, par le moyen de l'éducation populaire généralisée. Dans ce regard sur la modernité, Strauss propose simultanément, pouvons-nous dire, une critique éthico-philosophique, si vous voulez, une critique portant sur l'abaissement de la finalité de l'homme, qui ne cherche plus l'excellence, mais seulement la conservation de sa vie biologique, ainsi qu'une critique que, si vous voulez, j'appellerais historique, qui met l'accent sur l'échec de l'espoir dans le progrès, formulé par la première modernité, ainsi que sur les conséquences de cet échec de l'espoir dans le progrès, sur la moralité et sur la pensée de la moralité. Pour ce qui tient à la présentation que je vous fais ici, je m'intéresserai moins à la première que, si vous voulez, met en lumière les aspects les plus classiquement conservateurs de la pensée de Strauss. Il m'importe surtout de souligner ici que, tel que le comprend Strauss, le projet moderne, dans son échec, amène la pensée à succomber irresponsablement devant l'avènement des plus grandes ou de la plus grande des calamités politiques. Le rationalisme moderne, la foi dans le progrès, devient historicisme et enfin, dans sa crise, historicisme radical, et je ferai encore une fois un résumé trop brutal de l'argument straussienne. La modernité avait placé la foi dans le progrès, dans la conviction que progrès intellectuel, progrès social et progrès de la connaissance devaient aller de concert. La linéarité du progrès indiquait pour les modernes la direction de réalisation du bien. Le devenir de l'histoire fournissait donc le critère permettant de différencier le bon du mauvais. Mais, dit Strauss, la barbarisation du XXe siècle dément empiriquement l'idée selon laquelle on ne pouvait pas revenir en arrière dans les domaines de l'intellectuel, du social ou du moral. L'idée que les hommes marchaient vers la solution définitive du problème politique et le bonheur universel, et met en lumière, de façon empirique si vous voulez, ce que la pensée de la fin du XIXe et des débuts du XXe proclamait déjà. Une fois la foi dans le progrès brisée, la crise de la croyance dans le progrès et dans le sens progressif de l'histoire nous laisse démunis de tout critère pour juger ce qui advient. L'homme occidental moderne, dit Strauss dans Natural Right and History, dans Droit naturel et histoire, ne sait plus ce qu'il doit vouloir, ne sait plus ce qu'il doit vouloir, parce qu'il ne croit plus savoir ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. L'historicité des valeurs ne renvoie plus à une supériorité quelconque que l'on pourrait mesurer ou défendre. Les valeurs sont devenues simplement historiques, et une fois devenues simplement historiques, une fois l'affirmation d'une quelconque universalité ou généralisation des principes ou de la vérité définitivement rejetée, il ne restera en dernière instance que la prise en charge décidée de l'historicité des valeurs, la volonté de vouloir la valeur, comme critère qui pourrait nous permettre de distinguer, non pas des valeurs substantielles, mais éventuellement des attitudes existentielles devant l'historicité des valeurs elles-mêmes. Mais arrivé jusqu'ici, vous seriez en droit de vous demander. Si je puis affirmer que, tel que la comprend Strauss, la philosophie politique platonicienne se signale par la recherche et non pas par la possession des critères derniers du bien et du mal, si elle n'est pas et ne se considère pas en condition de soutenir philosophiquement le caractère absolu des valeurs qu'elle défend. En quoi se différencie-t-elle donc cette philosophie politique platonicienne, selon Strauss, de la conviction moderne, radicale, historiciste, qui ne croit plus à la possibilité d'affirmer des valeurs? Sur l'essentiel, oserais-je dire, en deux aspects. Tout d'abord, en ce que, d'après Strauss, l'historicisme radical affirme de façon dogmatique le caractère historique des valeurs, et donc l'absence des valeurs ultimes, tandis que la philosophie platonicienne telle que la lit Strauss n'affirme pas de façon dogmatique qu'il soit impossible d'accéder par la connaissance à une vérité éternelle, mais prend, elle, une attitude zététique, sceptique, à la recherche de valeurs ultimes, dont elle n'est pas en condition de démontrer définitivement la validité, mais dont elle est n'est pas non plus en condition de démontrer l'impossibilité. Ensuite, l'une et l'autre se distinguent, comme je l'ai déjà signalé, par l'attitude irresponsable du philosophe moderne auquel s'oppose la figure politiquement responsable du philosophe classique. Le philosophe moderne fait de ce que Strauss appellera l'athéisme par probité intellectuelle, c'est-à-dire de la prise en charge déclarée et dogmatiquement affirmée de l'impossibilité dernière d'un fondement dernier de ses jugements, le signe marquant de son attitude. Il assume ouvertement la dénonciation des illusions du rationalisme moderne, de la foi dans le progrès, il exhibe la nature historique des valeurs et des croyances de son temps. Le philosophe straussien, qui en sait long, lui, sur le caractère politiquement dangereux de ce savoir, fait de son côté de la réserve de cette impossibilité de fondement le signe marquant de son attitude. Entre l'un et l'autre, pourrions-nous dire, il y a le chemin qui mène de l'anti-égalitarisme classique à l'égalitarisme optimiste des Lumières, à sa foi dans l'éducation universelle et à sa croyance dans le caractère politiquement vertueux de l'égoïsme éclairé. Et une fois cet optimisme égalitariste brisé, il n'en restera comme arrière-goût que l'irresponsabilité du philosophe, qui ne se croit plus tenu de jouer un rôle politique particulier différencié devant ses concitoyens, et que ce faisant devient aux yeux de Strauss, sinon le complice, au moins le porte-parole de l'avènement de la barbarie. La rupture moderne n'aura donc tant consisté aux yeux de Strauss dans l'émergence d'un nouveau savoir sur l'homme et le monde, sinon plutôt dans un oubli. L'oubli de la modération dont doit faire preuve le philosophe responsable devant la cité, la manifestation ouverte du savoir selon lequel l'ordre, la justice, la moralité ne trouvent pas et peut-être ne pourront jamais trouver leur fondement dans un foyer transcendant, absolu, susceptible de démonstration, ne signifie nullement pour Strauss un progrès quelconque. Elle ne fait que accroître le danger que la diffusion de ce savoir, qui est dans ses paroles, comme je vous disais, de la dynamite pour la vie de la cité, peut comporter pour la vie stable, normale de la communauté, un danger qui plus est, qui se réalise finalement empiriquement dans la tragédie de l'extermination du XXe siècle. Alors, est-il possible de dire que pour Claude Lefort, lui aussi, l'événement de la révolution démocratique moderne révèle quelque chose que d'une certaine façon nous savions déjà, ou qu'elle révèle éventuellement quelque chose qui excède sa dimension épocale et qui fait signe vers une vérité plus permanente? Y a-t-il dans cet événement quelque chose qui, comme chez Arendt, se doit, donne à voir pour nous comme cela ne s'est peut-être jamais vu auparavant et qui a trait au caractère politique même, à la politicité, si vous me permettez ce néologisme, à la politicité même du politique? Une fois encore, je devrais, pour essayer de m'approcher de ces questions, rappeler dans ses grands traits et trop pauvrement le regard que jette Lefort sur la rupture moderne, sur ce qu'il appellera pour sa part la révolution démocratique. Comme vous le savez sûrement, Lefort abordera la spécificité du régime qui surgit dans la rupture moderne en prenant appui sur une compréhension du politique qui décèle dans la différence des régimes des formes particulières de mise en forme de la coexistence des hommes, d'une mise en forme qui est dans les paroles de Lefort à la fois une mise en scène et une mise en sens. Pour l'intelligence de ce qui fait la spécificité d'une forme de société, sa nature, oserais-je dire, contre Lefort, nous ne pouvons pas, d'après Lefort, partir des institutions, des classes, des rapports, des croyances ou des représentations, comme si nous étions en face d'entités objectives et découpables qui existent et qui ont un sens indépendamment ou avant leur inscription dans une forme politique, qui est à la fois un régime de sens. Cette inscription donc leur donne figure en leur donnant une forme qui fait sens, c'est-à-dire c'est leur place dans le tout du régime qui fournit les conditions de leur intelligibilité. inutile, je le sais, et je viens pourtant de le faire, d'essayer de résumer dans une phrase ce que le fort nous apprend tout au long de son œuvre, ou en tout cas, mieux vaudrait peut-être pour cela s'en servir d'une phrase à le fort lui-même. Il s'agit, écrit le fort dans Permanence du théologico-politique, d'identifier, et je cite, dans un régime, dans une forme de société, un principe d'intériorisation qui rende raison d'un mode singulier de différenciation et de mise en rapport des classes, des groupes ou des conditions, et simultanément d'un mode singulier de discrimination des repères en fonction desquels s'ordonne l'expérience de la coexistence, repères économiques, juridiques, esthétiques, religieux. Fin de citation. Rappelons brièvement ce qui fait chez le fort la spécificité de ce régime qui surgit de ou dans la rupture moderne. La démocratie, dira le fort, est ce régime qui annule la figure de l'altérité, mais qui n'annule pas pour autant la dimension de l'altérité. La démocratie est ce régime que, tout en renonçant à faire descendre l'autorité d'un foyer extramondain, transcendant, n'annule pourtant pas tout distancement d'avec la provenance de la loi, de cet régime que, tout en désignant un lieu du pouvoir, n'incarne pas ce pouvoir dans une figure, ni le fait se superposer avec la dimension de la loi. Dans les mots de Lefort encore, je cite, « Ce qui distingue la démocratie, c'est que si elle a inauguré une histoire dans laquelle s'abolit la place du référent où la loi a gagné sa transcendance, elle ne rend pas pour autant la loi immanente à l'ordre du monde, ni du même coup, ne confond son règne, le règne de la loi, avec celui du pouvoir. » Donc, ni immanence de la loi, ni confusion de la source du droit avec l'assise du pouvoir. Nous sommes, vous le voyez, très proches de Arendt. Le fort va pourtant plus loin aussi, ou pour être plus précis, il fait de cette distance, de ce hiatus, le principe qui octroie sa forme au régime en tant que tel. La distance entre la dimension de la loi et son expression positive, et la manifestation dans le terrain de la légitimité, d'un principe d'intériorisation que, si nous nous laissons importer par le regard de Lefort, nous voyons à l'œuvre dans tout le tissu de la démocratie moderne, d'un principe d'intériorisation qui nous avertit que dans tous les ordres de la vie sociale se donne à voir la distance entre la société et sa représentation d'elle-même, ou aussi, pouvons-nous dire, la distance entre le symbolique et le réel. Traversée de bout en bout par cette distance avec elle-même qui la constitue, qui la fait être telle, la démocratie est pour le fort cette société qui, dans sa forme même, accueille et préserve l'indétermination, qui remet la définition de la légitimité au débat sur le légitime et l'illégitime, qui délie le savoir du pouvoir pour le soumettre à ses critères propres de falsation ou de vérification, qui projette enfin le lieu du pouvoir comme lieu vide, impossible d'être occupé ou incarné, soumis pour son exercice à la compétition, c'est-à-dire à l'expression publique de sa division, de la division. Et c'est précisément dans cette figuration du lieu du pouvoir comme lieu vide, soumis pour son exercice à l'expression de la division, que se donne à voir avec la plus grande clarté la prise en charge du caractère foncièrement indéterminé du social, autrement dit, du principe d'intelligibilité du régime démocratique. Dans Permanence du théologico-politique, Lefort affirme en effet, et je cite, « De tous les régimes que nous connaissons, elle, la démocratie, est le seul dans lequel soit aménagée une représentation du pouvoir qui atteste qu'il est un lieu vide, qui maintienne ainsi l'écart du symbolique et du réel. » Fin de citation. Le lieu du pouvoir, dit aussi le fort ailleurs, se donne à voir comme purement symbolique. Résistant donc toute incarnation et toute occupation, le lieu du pouvoir ne renvoie point dans la figure d'un monarque de droit divin à une altérité qui lui donnerait sa substance, et ne renvoie pas non plus, par le biais d'une supposée incarnation du propre de la communauté de son essence, à une intériorité définissable de la communauté substantielle. Pour reprendre encore une fois les mots de Lefort, il dit tout ça mieux de ce que je ne pourrais le dire. Je cite, « Il n'y a nulle matérialisation de l'autre à la faveur de quoi le pouvoir faisait fonction de médiateur, quelle que fût sa définition, ni une matérialisation de l'un, le pouvoir faisant alors fonction d'incarnateur. » Alors, revenons après ce rapide rappel à la question que je posais au moment d'introduire Lefort dans notre conversation. Nous trouvons-nous ici, devant l'événement de la révolution démocratique, en face d'une manifestation, entre autres, d'une manifestation de plus des aventures de la coexistence des hommes, ou y a-t-il dans cet événement quelque chose qui nous mettrait d'une façon singulière devant la politicité, devant le caractère politique même du politique? Autrement dit, cet événement révèle-t-il quelque chose qui a trait à la nature même du politique, qui restait caché pour d'autres formes de coexistence politique? Si je me sens, même prudemment, autorisé à poser cette question, trouvons-nous dans cet événement quelque chose qui nous mettrait de façon singulière devant le caractère politique même du politique? C'est parce que nous trouvons dans l'œuvre de Lefort la trace d'une, disons-le ainsi, ontologie du politique qui inscrit la compréhension des diverses formes de régime, des diverses formes de comparution du politique, comme des réponses à chaque fois diverses à une interrogation portant sur ce qui apparaît comme le problème même du politique, comme des réponses à la nature incontournable, implacable, de la division. L'interrogation sur la question de la division renvoie chez Lefort vers deux foyers principaux. Vers ce que Lefort a appelé lui-même la nouvelle ontologie politique de Machiavel, qui nous laisse entendre, je cite, que la société est par principe ouverte à l'événement, et elle l'est parce qu'elle ne se rapporte pas immédiatement à elle-même, qu'elle est déchirée de part en part et que se repose indéfiniment à elle la tâche de colmater la brèche par laquelle s'engouffrent les appétits de classe et des individus. Et elle nous renvoie à cette question. De la division nous renvoie surtout vers l'affinité notoire que la démarche de Lefort entretient avec la philosophie de Merleau-Ponty, qui circonscrit de diverses façons, comme vous le savez, l'impossible coïncidence de l'être et de l'apparaître, la distance entre le symbolique et le réel, dans une réflexion qui nomme de différentes façons, toujours par approximation latérale, toujours par description phénoménologique délicate, la différence ontologique. Et nous savons bien entendu que le moyen de nommer cette différence, d'essayer de décrire ce qui se dérobe à la description, prend chez Lefort des chemins tout merleau-pontiens. La chair de la société, le chiasme, le visible et l'invisible, telles sont les façons dont Lefort nomme à tour de rôle cette différence. Et élucider plus profondément cette affinité évidente entre la démarche de Lefort et celle de Merleau-Ponty afin de répondre à la question que je me posais exigerait que je pose la même question d'emblée à la phénoménologie de Merleau-Ponty, ce qui excède, soyez tranquille, non seulement le cadre de cette conférence, mais cela excède aussi le cadre de mes capacités. Je ne l'essayerai même pas. Vous pouvez être tranquille. Alors, permettez-moi quand même de revenir tout droit sur Lefort, pour me tenir plus lâchement à cette affirmation. De quelque façon que nous l'observions, que ce soit en référence à l'ontologie politique d'origine machiavélienne ou à la phénoménologie de la chair merleau-pontienne, la démocratie moderne nous placerait de façon privilégiée devant le sens même du politique, du moment que façonnant le lieu du pouvoir comme un lieu, mais comme un lieu vide, elle nous donnerait à voir aussi bien la nécessité de toute société de se reconnaître comme société une, cachant par là sa division originelle, mais elle nous donnerait à voir aussi en même temps, dans la séparation matérielle d'une instance du pouvoir, l'impossibilité même de cette unité. Autrement dit, la démocratie aurait le privilège de nous placer face à l'énigme du politique en tant que tel, ou, dans les mots tranchants de Lefort, je cite, « la vertu de la démocratie moderne est de ramener la société à l'épreuve de son institution ». Ce qui fait à nouveau résonner les paroles de Arendt, les révolutions sont les seuls événements qui nous placent directement, inéluctablement, devant le problème du commencement. Mais pouvons-nous tout de même conclure si facilement au privilège ontologique de la démocratie chez Lefort ? Malgré les forts indices que je viens de soulever dans ce sens, nous ne devrions pas oublier que Lefort n'a cessé d'insister sur le caractère non nécessaire, mais contingent de l'avènement des diverses formes de régime, et qu'il a aussi insisté en permanence sur l'impossibilité dans laquelle se trouve le philosophe de se soustraire dans sa pensée du lieu que la société dans laquelle il pense aménage aux pensées. Il n'y a certainement pas non plus chez Lefort dans la succession de formes de régime de linéarité dans le sens du progrès, mais des modalités différentes par lesquelles dans les hommes, dans l'histoire, dans la communauté, se met en jeu la vie en commun des hommes. Et de même que chez Arendt, on ferait bien de se souvenir du fait que chez Lefort aussi, l'aventure totalitaire se déploie dans la même ouverture dans laquelle se déploie aussi la révolution démocratique, dans l'abéance de la chute de la royauté de l'ancien régime. Mais il convient aussi, surtout, de ne pas oublier que telle que la comprend Lefort, la société démocratique est non seulement cette forme de société dans laquelle se met en scène tout au long et tout au large de son tissu cette distance entre le symbolique et le réel, celle où se défait à chaque instant, dans chacune de ses instances, l'illusion de l'unité, la société démocratique est aussi, aux yeux de Lefort en même temps, celle dans laquelle se cache, se dérobe, peut-être de la façon la plus radicale, le principe politique de l'ordre social, si nous entendons par celui-ci, comme nous le proposions plus haut, l'impossible figuration de la société comme identique à elle-même, son impossible coïncidence avec elle-même. En effet, il ne faut pas oublier, je crois, qu'en même temps qu'aux yeux de Lefort, l'avènement du régime de sens de la démocratie moderne nous place en face du symbolique comme purement symbolique. Ainsi aussi, le régime démocratique, du moment qu'il ne fournit pas une figure de l'altérité, est aussi le régime le plus susceptible de cacher et de se cacher le caractère symbolique, et donc non pas simplement positif ou empirique, du lieu du pouvoir ou de la légalité de la loi. Cet oubli du caractère symbolique de la loi, cet oubli de l'expérience politique comme expérience à la fois de représentation de l'unification, unification à la fois nécessaire et impossible du social, d'une division originaire, peut rester caché aux yeux des hommes des temps démocratiques d'une façon inédite. Tel est, dit Lefort, et je cite, le paradoxe, les régimes dans lesquels la figure du pouvoir se dessine en relation avec celle d'une puissance autre ne font pas complètement méconnaître le principe politique de l'ordre social. En revanche, la démocratie dans laquelle la figure de l'autre se trouve abolie ne se laisse pas appréhender dans sa forme politique. L'illusion naît d'une réalité qui contiendrait la raison de sa propre détermination dans la combinaison des multiples rapports de faits. L'illusion des sciences politiques, tant de fois dénoncée par Lefort, de se croire face à des entités qui parlent par elles-mêmes, sans percevoir ce que ces entités doivent à leur inscription dans un régime de sens, est une manifestation de cet aveuglement. Mais plus important, cet aveuglement, cette cécité, par rapport à une dimension de la transcendance, qui, sans incarner dans une figure, se met néanmoins en jeu dans tous les ordres de la vie en commun des sociétés démocratiques, cet aveuglement peut nous placer devant le danger qui veut que la division soit comprise et perçue comme purement réelle, que la différence soit comprise comme pur conflit d'intérêts, que la compétition pour le pouvoir ne fasse signe vers le caractère foncièrement inoccupable du pouvoir, mais uniquement vers la dispute pour faire triompher des intérêts particuliers. Mais alors, si la modernité démocratique nous place à la fois devant la possibilité de faire l'expérience de l'institution politique de la politique, de la nature symbolique du pouvoir, et aussi de cet aveuglement qui lui est propre et d'un danger qui lui est propre, qu'est-ce qui nous permet, encore une fois, d'être sensibles au sens plus proprement politique de notre expérience moderne, sans être victime de cet aveuglement, sans céder à la tentation de ces dangers? Je voudrais ici proposer une conclusion toute provisoire. Pour être sensible à la signification politique de notre expérience moderne, il faudrait, d'après Lefort, que nous récupérions le regard philosophique dans sa meilleure expression, que nous nous détachions aussi bien du regard de la science politique que de celle de la philosophie de l'histoire, aveugles toutes les deux à la différence dont il ne cesse d'être question. Vous reconnaissez ici sans doute les premiers paragraphes de la question de la démocratie. Mais il faut encore que nous puissions demander à la philosophie un regard sur cette différence qui ne se laisse pas réduire au regard théologico-politique. Dans un texte fondamental auquel je me suis plusieurs fois référé dans Permanence du théologico-politique, Lefort souligne la solidarité qui existe entre philosophie et religion, toutes les deux étant, nous dit-il, des formes de nommer l'excès de l'être sur l'apparaître. La religion est solidaire de la philosophie, contre la science politique, parce qu'elle nous donne à voir la dimension symbolique de la politique que la science ignore, prise comme elle l'est dans l'illusion d'un savoir plein de l'ordre visible de la société. La philosophie est solidaire de la religion en ce qu'elle préserve et veut préserver l'expérience d'une différence qui n'est pas à la disposition des hommes, qui, dans les mots de Lefort, je cite, n'advient pas dans l'histoire des hommes et ne saurait s'y abolir, ce que ajoute Lefort justement, toute religion le dit, et avant qu'elle, quoique dans un langage que la philosophie ne peut faire sien. Deux langages donc, et je vous promets que je commence à conclure. Deux langages donc pour nommer une différence qui se dit de plusieurs manières dans l'histoire des sociétés humaines et aussi dans le discours. Une différence qui se fait chair dans l'Ancien Régime, une différence qui se montre dans son caractère symbolique dans la démocratie, une différence qui veut être niée par le régime totalitaire qui la place pour cela comme pure extériorité, comme anomalie ou comme maladie. Une différence ontologique que le théologien ramène à la figure théologico-politique, que le philosophe accueille dans la différence entre le réel, le symbolique et l'imaginaire, et que, ajoutons ceci, est nié ou ignoré aussi bien par le scientiste politique que par le philosophe de l'histoire. Je voudrais donc proposer ceci, le regard de Lefort sur l'ancien régime, sur ce régime qui rêvait d'une manière imaginaire la distance symbolique, et le regard d'un philosophe, et non pas d'un théologien de la politique, d'un philosophe qui interroge le chiasme de l'existence sans déposer son sens dans un foyer de transcendance. Ainsi, le philosophe, tout en reconnaissant dans cette figure une des modalités de l'apparaître de la différence, ne cesse de la lire dans ses propres termes, dans les termes d'une supplémentation imaginaire, d'une ouverture qui se lit proprement dans le registre du symbolique. De façon similaire, pouvons-nous imaginer, le théologien ne cessera de voir dans l'absence d'une figure de la transcendance le déficit ontothéologique de la modernité. Afin de retrouver mon questionnement original, il nous reste, pour finir, à demander si ces figures, celle du philosophe et celle du théologien politique, celle de la philosophie et de la religion, nous renvoient à des regards que nous devons avant tout considérer propres, chacun à une forme spécifique de régime, ou si elles nous renvoient à deux possibilités permanentes de la pensée humaine. Et je crois, et c'est cela mon hypothèse provisoire, que cette dernière serait en effet l'option que nous pourrions attribuer à Lefort si nous le lisions toutefois à la lumière de la pensée de Léo Strauss. Lu sous cette lumière, nous pourrions imaginer que Lefort comprendrait que religion et philosophie partagent une même sensibilité en ce qui concerne le caractère non immanent du social, de la distance du social avec lui-même, mais qu'elles se séparent en ce qui concerne ce qui peut combler cette distance, si toutefois il s'agit de la combler. Si, reprenant les termes de Strauss, le X qui comble la distance entre la moralité de la cité, la loi de la cité, et l'au-delà de la cité, l'origine de la loi, et l'obéissance pour la religion et la contemplation pour la philosophie, nous pouvons maintenant dire que dans les termes de Lefort, le X qui signale la distance entre le réel et le symbolique est comblé par la figure divine dans le registre théologico-politique, tandis que ce X est compris comme essentiellement non figurable par le philosophe. Tout essai de figurer l'altérité ne peut pour le philosophe être qu'une façon par laquelle l'imaginaire viendrait se greffer sur cette distance. Pour le philosophe, la démocratie, parce qu'elle nous situe dans la dimension de l'altérité et nous soustrait en même temps à toute figure de l'altérité, nous place ainsi devant la distance en tant que pure distance, devant la brèche en tant que brèche. Le philosophe reconnaît l'authenticité, la profondeur de la réponse religieuse, mais pour reprendre la phrase de Lefort citée plus haut, elle se dit dans un langage qu'il ne peut faire sien. Arrivé jusqu'ici, je me dépêche vraiment maintenant de mettre fin à cette à la fois beaucoup trop longue, mais aussi trop succincte présentation. Je prendrai le temps pour excuse pour ne pas vraiment tirer des véritables conclusions, pour ne pas essayer de faire l'étalage des différences tranchantes ou des parallèles définitifs que l'on pourrait dessiner à partir de ce que je viens d'exposer. Et pourtant, il y en a qui se sont dessinés presque tout seuls au cours de cette présentation, des parallèles vous les aurez peut-être perçus entre le regard de Arendt et de Strauss concernant les périls devant lesquels nous place la rupture moderne, que s'ils prennent chez l'un ou l'autre des chemins différents, nous permettent, je crois, dans cette différence, de prendre la mesure de ce qui sépare les deux auteurs, notamment en ce qui concerne leur regard sur la condition de l'homme et sur le rapport des hommes aux politiques. J'oserais dire très rapidement que si chez Arendt la rupture moderne met devant nous non seulement un danger mais aussi la possibilité d'une nouvelle expérience de la liberté politique, cela tient à ce que pour Arendt la liberté se fait jour non pas dans la vie du philosophe à l'abri du regard de la cité mais dans la scène d'un redéploiement du politique auquel en principe nous pourrons effectivement tous avoir accès à égalité. Des parallèles aussi entre Arendt, Lefort et Strauss sur ce que la coupure moderne nous donne à voir en ce qui concerne la nature du politique en tant que telle, sur ce qui, dans les mots dont je me suis servi au cours de mon exposition, d'une façon ou une autre, était su depuis toujours, autrement dit, sur l'impossibilité de clore la question sur l'origine de la cité, ainsi que sur la justice de la cité. Et dans ce même sens, des parallèles entre Arendt et Lefort sur la délicate distance entre transcendance et immanence, distance dans laquelle chez l'un et l'autre s'est mis en jeu, si j'ose dire, toute la question de la liberté politique. Parallèle enfin entre Lefort et Strauss en ce qui concerne à la fois la solidarité, mais aussi l'irréductible distance du regard sur le politique que portent religion et philosophie. Je pourrais peut-être signaler pour conclure, puisqu'il faut bien avoir l'air de conclure sur une conclusion, qu'au terme du parcours, nous nous serons trouvés devant une commune sensibilité philosophique chez Arendt, chez Strauss et chez Lefort. C'est en tant que philosophe politique, ou disons plutôt pour ne pas déplaire à Arendt, en tant que penseur politique, qu'ils se montrent tous les trois sensibles à la signification politique de la rupture moderne, que ce soit pour la déplorer, comme c'est le cas pour Strauss, que ce soit pour y retrouver à la fois l'expérience même du politique, de la capacité des hommes de commencer, mais aussi des dangers associés à la radicale instabilité de l'action, comme chez Arendt, que ce soit comme chez Lefort pour y déceler une forme de société que qui, observée d'un regard philosophique alerte, nous met en demeure de faire face aussi bien à ce que dans l'aventure démocratique nous permet d'y lire les signes d'un dévoilement du politique, mais aussi d'y déceler les signes de son éventuel retrait. Pas de privilège ontologique pour le philosophe de notre temps, je conclus, ce serait trop facile, mais la démonstration par le fait de la pensée, par l'exercice de la pensée, qu'il s'est toujours agi et qu'il s'agira peut-être toujours, pour ceux qui font face aux énigmes de la coexistence des hommes, d'épouser et de reposer la question politique par excellence, qu'en est-il de la différence entre formes de société ? Merci.
Chaque fois qu'on t'écoute, on a l'impression, tu sais, d'être dans une voiture qui va gravir une côte et tu nous dis toujours, bon alors là je suis à tel endroit et j'ai encore besoin de continuer à gravir ma côte et là je suis en train de redescendre et là vraiment je suis en train de redescendre. Et donc on a l'impression d'un voyage comme ça. Enfin, je t'ai écouté là, ça fait la... troisième fois que je t'écoute depuis que tu es là, et à chaque fois j'ai ce...
Mais bon, ouais, c'est si je me casse la gueule ou pas.
Mais non, mais tu te casses pas la gueule parce que tu arrives à bon port. Bon. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait intervenir ? Pose une question à Claudia.
Si vous n'avez pas compris, je recommence. Hein.
Demander des éclaircissements éventuellement.
Oui,
allez-y.
Est-ce que vous pouvez parler un tout?
Ouais. Donc apparemment, les trois auteurs que vous avez cités, ils y voient quelque chose de positif pour repenser.
Oui, chez Strauss. Il est difficile de voir s'il voit quelque chose de positif. En fait, si je continue un peu sur Strauss. On pourrait se demander pourquoi finalement Strauss est un penseur. Mais bon, j'en ai pas parlé, mais il y a chez Strauss aussi une pensée de défense de la démocratie, du régime américain dans lequel il a vécu pendant la plupart de sa vie adulte. On peut se poser la question, je sais pas si je me lançais par là, parce que ça me tente, mais c'est pas vraiment dans ce que j'ai dit dans mon exposition, mais il y a chez Strauss une défense de la démocratie américaine dont je pense que le sens, au fond, pourrait être, bon, finalement, c'est un régime qui laisse le philosophe philosopher, faire sa philosophie assez en paix, et donc, finalement, c'est pas si mal que ça. Mais dans ce que j'ai présenté, je dirais que le regard de Strauss sur la modernité, sur la rupture moderne, est plutôt assez critique, surtout sur ce que la pensée ou les philosophes... La façon dont les philosophes ou dont la pensée fait face à cette rupture.
Et pour le fort, c'est une manière de re-questionner les institutions,
c'est ça? Pour le fort, la question que je me pose, c'est si dans sa vision que je crois fortement positive de la démocratie moderne, comme cette forme politique dans laquelle l'indétermination est préservée dans la forme institutionnelle même, si cela fait que chez Lefort, nous pourrions dire qu'il y a un privilège ontologique de la démocratie, c'est-à-dire il y a dans la démocratie la mise en scène de, si vous voulez, la vérité du politique. La vérité du politique étant qu'il ne peut pas y avoir finalement coïncidence entre ce qui est et ce... entre ce qui est et ce qui apparaît, c'est-à-dire qu'il y a toujours une distance entre la loi comme l'instance de la loi et la loi positive, la dimension de la loi et la loi positive, et que donc cette distance qui est inscrite dans le régime démocratique, dans toutes ces manifestations, si cela ferait que nous pourrions dire que chez Lefort, il y a une vérité philosophique ou philosophico-politique de la démocratie par rapport à d'autres régimes. En fait, c'est une question que je me pose en lisant Le Fort, et j'ai un peu fait le chemin, comme dirait Martine, c'était pas simplement comme ça, c'était un peu comme ça, en disant oui, mais il y a effectivement, on pourrait trouver une anthologie politique qui donnerait ce privilège à la démocratie chez Le Fort, hein, nous rattachant aussi bien à l'idée de la division qu'il prend de Machiavel que à l'idée, disons, de la distance entre être et apparaître d'origine merleau-pontienne chez Le Fort. Mais en même temps, je pense qu'il y a des éléments aussi qui doivent nous donner certaines précautions pour faire une affirmation aussi tranchante. C'est un peu ça que je voulais dire.
Alors, je vois derrière le poteau Numa qui
Est-ce que cette réflexion a un rapport avec ta propre expérience politique passée ou aussi, est-ce qu'elle a un rapport avec les commencements qui ne manqueront pas de survenir, peut-être, en tout cas, dans les années qui viennent?
Écoute, par rapport à ma propre expérience, je dirais oui, tout à fait. Je ne vais pas faire ma biographie, mais je veux dire, s'il y a un auteur que moi m'a marqué d'une façon absolument fondamentale, c'est Claude Lefort. Et Claude Lefort m'a marqué à un moment où effectivement je venais d'une expérience aussi bien intellectuelle que politique d'un marxisme assez traditionnel, et j'ai trouvé chez Lefort effectivement une pensée du politique qu'en même temps qu'elle me permettait moi de conserver, si tu veux, mes convictions de gauche, me permettait aussi de penser de politique et sur des points de faille que je sentais ne pouvaient plus tenir, de cette idée dans le sens de l'histoire, de cette idée d'une réalisation d'un bien qui pouvait incarner quelque part et qui finalement n'avait donné que des régimes d'oppression sans liberté, etc. Alors, de ce point de vue-là, et en ce qui concerne Arendt et Strauss, je dirais c'est des auteurs que aussi. Et bon, chez Arendt, c'est plus facile, je trouve. C'est une pensée, pour moi, c'est une pensée de critique de la politique réellement existante, très forte et très riche. C'est une pensée de la liberté politique. Et chez Strauss, ce que je trouve, moi, surtout, c'est une espèce de garde-fou contre mes certitudes les plus faciles. Alors, Strauss t'oblige tout le temps, comme il est tellement écœurant, si tu veux, d'un côté. Genre, pour une conscience démocratique moderne, on ne peut pas être straussien. C'est impossible, c'est insupportable. C'est un anti-égalitaire, c'est bon. Mais en même temps, il est tellement intelligent, il pose tellement de bonnes questions que pour pouvoir réaffirmer, je dirais ça dans un sens arendtien, on peut réaffirmer les mêmes convictions, mais il va falloir les avoir choisies à nouveau. Il faut les avoir repensées à nouveau. On ne peut pas juste, après avoir lu Strauss, tu ne peux pas continuer à être un démocrate égalitariste moderne par inertie. Il faut tout repenser, il faut choisir à nouveau tes principes et tes convictions.
Oui.
Ma question concerne la question du fondement. Du commencement qui est au cœur des révolutions modernes, dire que vous avez parlé de certains siècles vicieux dans lesquels est pris tout commencement, qu'on a vu à l'œuvre, que ce soit dans la révolution américaine, que ce soit dans la révolution française, à travers la lecture américaine. Est-ce que, je me demande, c'est ça ma question, est-ce que la révolution en elle-même, en tant qu'échec de la fondation de la liberté, ce qu'elle porte comme principe, est-ce que l'échec, ce qu'elle porte comme principe, en ce sens que le trésor, l'espèce de trésor qu'elle n'arriverait pas à coucher, est-ce que ce n'est pas ce qui fait sa richesse? Probablement, c'est ce qu'elle perd comme richesse, c'est ce qui fait.
Vous posez une question qui est très intéressante, parce que, effectivement, quelle est. Donc, la révolution, elle porte en elle-même, si on la prend du côté de Arendt, non? La révolution, elle porte en elle-même son propre fondement. Finalement, il n'y a pour Arendt d'autres fondements pour le commencement politique que la capacité des hommes eux-mêmes à commencer. Alors, effectivement, chez Arendt, il y a cette allusion à un principe qui inspire la fondation, qui peut être différent pour chaque fondation. Mais je dois dire, de mon côté, peut-être ici, Étienne et Martine pourront me contredire. Et donc, ce principe chez AREN, moi je trouve qu'il manque un développement convaincant pour savoir ce qu'on peut vraiment en faire. Pour que ce principe puisse nous sauver, si vous voulez, de ce paradoxe du commencement et lui donner ne serait-ce qu'un fondement non fondamental. Je vais très vite. Alors, est-ce que la richesse de la révolution n'est finalement pas cette désordre, ce qui fait aussi finalement son échec? Là, il y a, effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose à penser chez Arendt, mais aussi, je veux dire, en général, en politique. Chez Arendt, il y a tout le temps, en même temps, une pensée, je dirais, du commencement du nouveau en politique, mais une préoccupation pour la stabilité aussi. Et donc, où, comment trouvons-nous la stabilité pour pouvoir faire que la révolution n'échoue pas dans cette richesse? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Quelles sont les conditions pour une stabilisation de la possibilité de l'expérience politique, c'est-à-dire de la répétition de l'expérience du pouvoir? C'est ce que, au dire de Arendt, aurait finalement fait échouer la révolution américaine, donc, comme révolution. Mais alors, est-ce qu'on peut vraiment imaginer, dans les conditions de la politique moderne, des formes de vie en commun qui arrivent à conserver des conditions, à préserver et à répéter les conditions pour une répétition de la du politique ou de la politique comprise comme l'action commune des hommes qui ne finit pas par être bouffée, si vous voulez, par les institutions? Moi, j'en sais rien. Je suis assez pessimiste. Et là, je rejoins Arendt, je pense que la politique arrive dans les conditions modernes par éclat, à des moments, dans des situations, mais effectivement, alors, qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Moi, j'en sais rien. Mais, effectivement, je pense qu'on peut penser quels sont, d'après, disons, en nous basant sur Arendt, quels sont les chemins par lesquels la politique dépérit, que ce soit par une appropriation par un petit groupe, que ce soit par l'impossibilité d'une stabilisation quelconque, qui finalement fait aussi que la révolution va échouer, ou que ce soit par une institutionnalisation qui finalement retire toute capacité d'innovation à la politique, à l'action politique elle-même.
En attendant que quelqu'un... parce qu'on pourrait peut-être faire un exercice de pensée contemporaine en réfléchissant à l'Égypte en ce moment, par exemple.
Ben oui.
C'est-à-dire, qu'est-ce que... J'ai l'impression que les gens sont dans ce genre de questionnement. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont été jusqu'à un certain point... pour le moment, c'est l'armée qui stabilise. C'est comme si les gens avaient senti qu'ils... Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas au courant exactement de ce qui s'y passe, mais ce que j'en comprends vaguement de l'extérieur, c'est qu'il y a un moment, ils ont nettoyé la place. C'est extraordinaire, ce geste que les gens sont allés nettoyer la place en disant, bon, là, maintenant, voilà, on a été jusque-là, on décide, on ne va pas plus loin. Il n'y a pas d'aventurisme, etc. Donc pour le moment, on s'arrête. Donc ça veut dire qu'il y a bien, je ne sais pas, je suppose, une espèce de conscience qu'il y a eu quelque chose de révolutionnaire qui s'est passé, certes, mais les gens, pour le moment, se disent bon, on ne va pas plus loin, on attend, on va voir. Bon, je crois qu'on a là une expérience tout à fait. Intéressante par rapport aux questions que tu poses.
Ouais, ouais,
je sais pas qu'est-ce qui. Personne, je veux dire, bien malin, celui qui peut dire comment ça va évoluer tout ça.
Ouais.
Mais n'empêche que j'ai trouvé que c'est j'ai jamais vu des gens qui ont occupé une place où ça devait être effectivement très dégueulasse et tout. Ou après, tout le monde est venu avec son balai en disant non, maintenant on nettoie. puis on fait place d'elle, et puis on est toujours là.
Mm-hmm. Alors, bien malin, celui qui pourrait dire comment ça va évoluer, mais moi, je me sentirais bien maligne si je pouvais dire comment je voudrais que ça évolue. Et ça, je ne peux pas non plus. Parce que disons, là, on est devant le danger, en même temps, de dérapage sans une possibilité de stabilisation, on est en même temps dans le danger de disparition de toute possibilité de l'action. Alors c'est là tout se joue effectivement dans
sur cette, parce que il y a aussi, parce que dans l'analyse d'Arendt sur la Révolution française, le moment, en tout cas dans la Révolution française, où ça a commencé à déraper, c'est le moment où la question sociale s'est posée. Mm-hmm. Et là, en Égypte, il y a cette question qui est en train de se poser, puisqu'il y a actuellement, dans ce que je lis, il y a actuellement justement la question de la misère, la question des conditions de vie, etc. Et là, il y a un enjeu, effectivement, parce que l'arrivée de la question sociale, à partir d'un certain moment, d'après, c'est ça l'analyse d'Arendt dans l'essai sur la Révolution, c'est ça aussi qui fait cette espèce d'emballement et de déstabilisation, etc. Il y a ce truc. Mais en même temps, il faut la prendre en compte, la question sociale. Ouais. Et en Égypte, il y a ces deux trucs-là, quoi, qui sont... Oui.
Je ne voudrais pas refroidir votre enthousiasme, mais il n'y a pas eu de révolution en Égypte. On n'est absolument pas, contrairement à ce que la presse raconte, et les médias et les journalistes en situation révolutionnaire, pas plus en Égypte, et encore moins peut-être en Tunisie. Nous sommes dans
un cadre... Il y a quelque chose de révolutionnaire, il n'y a pas une révolution, mais il y a quelque chose de cet ordre-là.
Oui, mais rien de pensable dans les termes et la radicalité des termes dans lesquels Arendt pense la question de la révolution. C'est-à-dire que nous sommes dans un univers qui s'appuie sur la permanence et la stabilité de l'armée, qui s'est dépêché de confier à l'armée le soin de l'État. Ce n'est pas vraiment une situation révolutionnaire. Et donc on n'est pas non plus dans un commencement. On est dans un moment de rupture, ce n'est pas forcément un moment de commencement. Quand tu dis on est dans la rébellion, on a été dans une phase insurrectionnelle, une rupture qui a produit un décrochage de la structure de pouvoir telle qu'elle était là, mais ça ne transforme pas entièrement pour l'instant le jeu des institutions. Ça continue de s'appuyer sur les forces qui ont assuré la cohérence de ce pays depuis 40 ans, c'est-à-dire l'armée. Et ce qui, je ne sais pas, je vois ce qui vient, ce à quoi il a été mis fin, je ne sais pas en quoi c'est encore en termes de commencement qu'on peut penser sans rien.
Personne ne sait, mais effectivement, il n'y a pas eu de révolution, mais il y a quelque chose de révolutionnaire dans la mesure où il y a eu une éruption d'un peuple qui a fait. Bon, d'accord, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais en même temps, avec cette question qui se pose. Tout de suite, de jusqu'où on va, est-ce qu'on la stabilise? Et c'est vrai que pour le moment, c'est la stabilisation est confiée à l'armée. Hein, bon, mais peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de groupe véritablement prêt à prendre le pouvoir aussi.
Oui, non, mais je serais d'accord pour dire que c'est peut-être la preuve d'une très grande sagesse. Et simplement, il faut aussi convenir que c'est pas non plus une situation exemplairement révolutionnaire, quoi. Voilà.
Je dirais pas mais, bon.
Juste pour rebondir là-dessus, enfin, je ne respirerai pas à l'analyse sur la révolution. Il y a quand même, il me semble, une différence assez fondamentale entre ce qui a pu se passer dans la Révolution française et ce qui se passe en Égypte au niveau de la question sociale. C'est que aujourd'hui, les gens qui posent la question sociale en Égypte, en gros, la nouvelle coordination syndicale qui a émergé pendant la coupe de la place Tahrir, sont dans une opposition à l'armée aujourd'hui.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a des communiqués de l'armée qui disent voilà, les grévistes prennent avantage du pays, etc.
Ouais,
c'est classique, finalement, comme ça. Mais, et du coup, là où c'est vraiment différent de la situation révolutionnaire française, où finalement, c'était les gens qui. Les gens qui posaient la question sociale étaient au pouvoir, en fait.
Oui.
Donc, du coup,
là, il n'y avait, pas un affrontement avec l'institution, alors qu'aujourd'hui, l'armée constitue en fait une sorte d'institution.
Bah oui, oui, bien
sûr. Est-ce qu'on peut dire que l'armée, c'est l'État, je ne sais pas, mais c'est quelque chose un peu comme ça, quoi.
Oui, non. Enfin, non, moi je proposais ça comme exercice, ouais, si
exercice
vous voulez,
de penser. Ouais.
De penser. Moi, je veux dire, j'ai dit, j'ai lancé le truc, c'est tout. Mais peut-être. Non, oui, mais parce qu'il me semble que les questions que pose quand Numa a posé Alexandre, mais bon, mais à partir de quoi tu poses ça, je crois que ces questions qu'elle pose, oui, on peut.
Je suis d'accord.
Oui.
Et ça me fait penser à la question, bon, de la discussion, ça me fait penser à ce que dit Strauss sur Machiavel, et ce qu'il a fait en rappel, de rappeler la moralité dans la politique, c'est-à-dire que les classiques l'avaient caché pour penser à une vie idéale, une cité idéale, et Machiavel il fait juste actualiser les problèmes. Et aujourd'hui, je me demande si dans les démocraties contemporaines, ça ne devient pas aussi un problème pour justement aboutir à des révolutions. C'est-à-dire qu'on part maintenant de ça, on est conscient que ça existe, c'est-à-dire la maldade, comme on dit.
La méchanceté.
La méchanceté chez les hommes, comme dit Machiavel. Et que ça conduit à une sorte de résignation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus loin dans les cas des. Je lance aussi des choses peut-être. Dans les cas d'Égypte, du peuple égyptien, on peut plus aller plus loin, on laisse ça à une institution qui nous assure, qui nous rend la sécurité. Ça ne rentre pas dans cette logique de...
Je ne sais pas si je vous comprends bien, mais en tout cas, si je vous comprends bien, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous suggérez, c'est que du moment où on n'a plus l'optimisme dans le progrès, du moment où on se pose la question que l'ordre, le meilleur ordre, n'est pas quelque chose de réalisable et que ça répond à un plan et simplement faut mettre les méchants de côté pour que le bien puisse avancer. Effectivement, la politique devient quelque chose de plus délicat, où on se pose plus de questions, où effectivement, comme dit Martin, on dit ben non, ici on arrête parce que si on déchaîne ses forces, on ne sait pas où ça peut nous mener. Donc, tout le problème politique. À ce moment-là, la politique commence à se poser vraiment comme un problème. Et non pas simplement disons, comme une recette. Alors, je ne sais pas si ça me paraît bien. Mais. Et effectivement, par rapport à la rupture de Machiavel, moi, contre Strauss, je dirais, bon, effectivement, si on pense la politique comme ça, c'est finalement peut-être moins dangereux que si on continue à la penser en termes iréniques, non, comme quoi, bon, irénistes, comme quoi bon, tout va vers le meilleur, et puis allons-y, de toute façon, on ne peut arriver que vers le bien.
Non, mais si la politique est pensée, c'est-à-dire on peut penser à une cité virtuose, parfaite, ça. Donc, je veux dire, on les réfléchissant d'une autre manière, si on peut avoir cette possibilité de penser la cité comme quelque chose de virtuose, ça pourrait aussi ouvrir des autres possibilités, c'est-à-dire, dans les temples égyptiens, les peuples ne se seraient pas arrêtés, parce qu'ils penseraient vraiment qu'il y a la possibilité d'arriver à un endroit meilleur.
Oui, mais là justement, bon, ça ça dépend un peu, si vous voulez, des expériences politiques de chacun, mais de mon côté, je suis arrivée à la conclusion toute provisoire que la croyance dans la cité heureuse a fait plus de mal que de bien, et que donc la chute de la cité heureuse comme idéal, ça a quand même signifié un certain frein pour la hubris du politique, c'est pas très édifiant tout ça, mais on choisit ses dangers.
Oui.
Je vois une colonne.
Oui, il y a le bouton là.
Du coup, j'ai l'impression par rapport à ces questions-là de comment à un moment le fait de venir nettoyer la place, ce serait la fin du moment révolutionnaire. Je ne sais pas pour l'Égypte exactement, mais pour la Tunisie, en tout cas, il y a des conseils qui continuent de se tenir,
oui.
Surtout des conseils de chômeurs, sur l'organisation commune. Alors, c'était des conseils qui, à la base, étaient des espèces de conseils de quartier pour se protéger des milices et des pillages, tout ça, etc. Et qui, là, sont plus sur un truc d'organisation... un peu de la vie quotidienne, quoi, du ménage, de ces choses-là, quoi. Et qu'à ce moment-là, que ces conseils-là, ils posent un truc où s'arrêter pour nettoyer, c'est pas en fait s'arrêter dans un sens... c'est arrêter la phase insurrectionnelle, mais c'est pas arrêter la révolution.
Oui, non.
Et
non.
Où, du coup, après, ça peut... Ça rejoint un peu le truc que peut dire Arène sur les conseils, le rôle des conseils dans la révolution hongroise, où à un moment, c'est ce qui permet de déborder la temporalité de... Oui. Ce qui déborde la temporalité de la révolution, qui permet de donner une autre temporalité à la révolution.
Mm-hmm.
Donc, j'ai pas l'impression que ce soit un arène, mais au contraire, c'est une...
Mais pour reprendre dans ce que vous dites, ce que disait votre camarade tout à l'heure, non, c'est finalement ce qu'il y a de plus riche dans la révolution qui sont effectivement ces moments dont vous parlez. À quel point pouvons-nous penser que cela peut effectivement s'institutionnaliser durablement comme la forme politique d'un régime? Moi, je vous disais au début, j'ai un peu travaillé sur la question de la révolution cubaine dernièrement. J'ai un petit bouquin en espagnol que je vais vous laisser au CSP RAP pour ceux qui liront en espagnol. C'est un bouquin très léfortien, je dois dire le mien. Et donc je vois surtout dans les premières années de la révolution un mouvement qui est à la fois un mouvement, si vous voulez, de participation spontanée, d'action dans le sens vraiment arendtien, et en même temps d'appropriation de cette action de la part du groupe au pouvoir, et où presque imperceptiblement la nature de cette action commence à changer au fur et à mesure que ça s'institutionnalise. Alors, tout le problème, si on parle d'une perspective arendtienne, est pour moi là, peut-on imaginer ces formes politiques dans le style des conseils hongrois, que ces formes politiques dans le style des conseils hongrois puissent devenir la base d'une institutionnalisation d'une nouvelle forme de régime. J'en sais rien, mais l'expérience que nous connaissons n'est pas très à notre faveur. C'est seulement ça, mais sinon je suis tout à fait d'accord.
J'aurais une question.
Il est l'heure, hein, je suis désolé.
Non, parce que c'est sur le rapport de Lefort à Arendt. Il y a chez Lefort une préoccupation qui me semble n'avoir strictement aucun équivalent dans la pensée de Arendt, qui est la préoccupation sur laquelle tu as mis l'accent et beaucoup insisté à la fin, de la différence entre le symbolique et le réel, et d'une sorte de transcendance de la dimension symbolique de la loi sur toutes les formes positives et concrètes de la loi. Moi, tu as eu l'air de dire que cette transcendance qui pourrait être formulée en termes théologiques et qui peut être formulée aussi en termes philosophiques, bon, que cette transcendance, elle co-appartient à la forme de société démocratique. Elle est constitutive même de la forme de société démocratique. Bon. Or, ma question, c'est est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'équivalent à cette transcendance-là dans la pensée arendtienne de l'action du commencement et de la révolution? Et s'il n'y a pas, je fais une hypothèse, s'il n'y a pas, pourquoi est-ce qu'on peut s'en passer chez Arendt et pourquoi on ne peut pas s'en passer chez Lefort? Mais peut-être qu'il y a.
Ben, pour moi, il y en a, mais ce n'est pas du côté du pouvoir, c'est du côté de la loi, c'est du côté de l'autorité. Donc là, pour moi, chez Arendt, la pensée de l'autorité est justement quelque part entre la transcendance et l'immanence. Ce n'est pas l'autorité... Pour moi, chez Arendt, ne nous renvoie pas à la loi positive, mais nous renvoie à ce que chez Lefort serait la dimension de la loi.
Mais alors, à ce moment-là, ça c'est un des débat qu'on a avec Martine.
Ah, ah d'accord.
Mais, est-ce qu'il nous faut
C'est pas la première fois, d'ailleurs.
On sait déjà qu'il y a une sensibilité féminine et une sensibilité masculine.
Bien sûr, évidemment que c'est ça.
Est-ce qu'on ne doit pas interpréter le problème auquel la démocratie moderne est confrontée comme étant précisément un problème qui surgit dès lors que l'autorité ne joue plus du tout la fonction de source transcendante qu'elle joue dans la politique, problème, etc. C'est-à-dire chez les enseignants, ce défaut. Bon, alors, qu'est-ce qui vient se substituer à cette fonction de l'autorité dans l'expérience démocratique moderne ?
Rien, justement.
C'est ça le problème.
Je veux dire, la phrase de Rousseau, la quadrature du cercle en politique. Comment mettre la loi au-dessus des hommes ? Mais c'est tout le problème. Et là, et en même temps, donc, si on rabat la loi à l'instance du pouvoir, on est devant le problème de l'annulation de tout instance de distanciation. Alors, selon Lefebvre, cette distance, elle existe en soi dans le dispositif démocratique, elle traverse tout le dispositif démocratique dans la non-coïncidence du pouvoir avec lui-même, dans cette distance entre symbolique et réel, je ne vais pas refaire tout le fort. De mon point de vue, cette distance, elle est aussi chez Arendt, elle est fondamentale chez Arendt.
Mais je voudrais la voir, je voudrais
voir
où elle est.
C'est de l'ordre de l'invisible.
Ben non, pas du tout. Du coup, c'est dans les textes. Non.
C'est dans les textes. Là, je rigole, mais moi je pense tout à fait dans sa description, aussi bien pour moi de l'exemple romain que de la révolution américaine, est liée.
Non, mais justement, je ne parle pas ni de la politique romaine, ni
de la révolution américaine.
Je parle de l'expérience démocratique aujourd'hui, maintenant.
Ben, où elle est chez Arendt ou...
Oui.
Mais où elle est dans les textes de Arendt
où intervient-elle dans l'analyse qu'Arendt fait de l'action politique? Où intervient cette dimension de la transcendance de la loi?
C'est pas de la transcendance, non.
Non, c'est de la non-immanence de la loi.
Voilà, déjà, oui.
Ouais.
Non, moi je dirais qu'il y a deux endroits où le premier endroit, c'est dans son analyse du totalitarisme. C'est-à-dire que l'un des angles d'analyse que fait Arendt du totalitarisme, c'est qu'il s'agit d'une abolition de la dimension de la loi. Tout ce qu'elle dit sur l'inversion. Des injonctions, le fait qu'il n'y a plus que la loi devient immanente au social dans un mouvement sans fin, toute l'analyse qu'elle fait aussi du rapport d'Eichmann à la loi, et donc en fait à l'absence de loi dans le totalitarisme, ça me paraît central. Ce qui veut dire que une société... L'un des signes d'une société non totalitaire est qu'elle préserve la dimension de la loi, c'est-à-dire cette différence entre la loi positive et la dimension de la loi comme telle. Mais le problème, justement, c'est que comme la loi ne s'adosse plus à une transcendance, c'est un abîme qui n'est jamais franchissable et qui peut toujours être rempli par des tenants-lieux. Il y a le grand, ce qui se passe, et dès la période révolutionnaire, parce qu'il y a plein de textes dans les essais sur les révolutions, où elle dit que les révolutionnaires, étant confrontés à cette question, n'ont cessé d'inventer des absolus pour remplacer ceux auxquels la révolution ne pouvait plus s'adosser. Et que sur la question de l'abîme de la fondation, ce qui vient combler, c'est le légendaire. Parce que la question de l'origine est une question insoluble. Et donc, il y a des légendes, il y a toujours des légendes de fondation. Et soit, donc, une société, au fond, répond à cette énigme, finalement, par la constitution d'une légende.
Je ne pourrais pas mieux dire.
Moi, je proteste véhémentement contre ce raisonnement. Parce que, mais je ne sais pas si... Je dis ceci, je trouve qu'on ne peut pas, je comprends parfaitement ce que tu dis, je trouve qu'on ne peut pas inférer des effets désastreux de la réduction de la loi à sa pure positivité dans le système totalitaire, on ne peut pas inférer de cela à la nécessité de cette non-immanence de la loi dans
c'est
l'analyse
pas...
des sociétés.
Mais
on ne la trouve pas, cette analyse, dans le texte d'Arendt.
Mais si, dans l'essai sur la Révolution, c'est, pour moi, c'est flagrant. Je...
La séance est finie.
Non, mais dans l'essai sur la Révolution, effectivement, on répète ce que dit Martine, mais disons, les révolutionnaires américains, ils ont le problème, ils ne savent pas comment résoudre ce problème, alors ils regardent tout le temps vers un absolu, et finalement, comme j'ai dit, mélange de fortune et de virtue, ben, ils trouvent l'éclat du commencement et de la l'égalité de la loi ou de d'origine est axé sur les pères fondateurs, sur une loi dont tout de suite est soustraite la dimension humaine instituée par des hommes, par eux-mêmes de cette loi, où elle prend un éclat comme si elle provenait du fin fond du temps. Alors, c'est justement ce miracle qui arrive dans la Révolution américaine, et que la loi, la Constitution et le processus du Constitution, tout d'un coup acquièrent cet éclat, comme si qu'il a soustrait de la positivité de ce qui vient d'être créé par des hommes positifs eux-mêmes. Alors pour moi, là se joue effectivement, pour Arendt en plus, la réussite de la question de la fondation américaine, dans ce retrait de la loi de sa positivité, dans cette presque effacement de son origine humaine il y a 5 minutes.
Ouais,
la discussion va continuer.
Tu
vois, Luma derrière aussi qui fait la moue. C'est les mecs.
Je voudrais commenter sur ça parce que ça va nous entraîner. Je voudrais faire un tout petit commentaire à propos de la question du social dans la révolution.
Oui.
Est-ce que peut-être tu l'as esquissé en rappelant le rôle que faisait jouer Arendt à la question sociale et c'est simplement pour dire que peut-être les analyses théoriques ou les théories globalisantes du politique au fond font un peu comme si le social c'était toujours la même chose. Au fond le pain, le chômage, le besoin, et ce serait toujours une sorte de constante sur laquelle alors on pourrait construire un raisonnement théorique presque anhistorique. Mais c'est pas comme une vérité. En vérité, dans chacune des révolutions, et même en dehors des révolutions, le social a une consistance tout à fait différente. Et il peut être imprégné de politique à des degrés très divers et de manière aussi très diverse suivant les périodes. Hier, on regardait Sharon, un film sur Sharon et la manifestation de 61, et il y avait des jeunes qui étaient là, ils disent « Mais c'est incroyable comme à l'époque les syndiqués étaient politisés. » Parce qu'on voit des types de la CGT, ils parlent politique, démocratie, liberté, racisme, etc. Donc, c'est-à-dire, suivant les époques, le social, c'est pas la même chose, et je crois qu'il faut faire attention à ne pas le substantialiser comme si le concept était porteur toujours du même rapport aux politiques. Non, ça change. Ça change.
Tout à fait d'accord. Bon, alors, c'est à suivre. Merci beaucoup, Claudia.
Merci beaucoup, c'est votre patience.